I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Louis.
Nova.
Je pense que c'est vraiment à l'université que je découvre à quel point la question de la parole, elle est liée au fait d'exister, au fait d'affirmer son existence, au fait d'occuper un espace. Et c'est très lié notamment aux manifestations, aux grèves, à toutes les assemblées générales qui avaient eu lieu dans le cadre du CPE. J'aimais bien demander le micro, j'aimais bien me lever, j'aimais bien... Je me rappelle que je faisais vraiment des distinctions très claires dans mon esprit entre qui savait parler et qui ne savait pas parler, par exemple. Puis évidemment, j'essayais de me rapprocher des gens que j'estimais... savoir parler, parce que tout d'un coup les applaudissements étaient beaucoup plus vigoureux, parce que on continuait à parler d'eux même quand ils avaient quitté la scène. J'étais vraiment très impressionnable, et ça m'impressionnait vraiment beaucoup.
Kaoutar Archi est écrivaine, romancière et sociologue de la littérature. Elle est notamment l'autrice d'un essai, « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne », dans lequel elle interroge le rapport d'écrivains algériens à la langue française dans laquelle ils écrivent et la manière dont leur écriture, en français, est perçue. Récemment, Kaoutar Archi a publié un très beau texte dans Libération. Il était titré « L'intersectionnalité, une critique émancipatrice ». Elle y disait « Je suis devenue sociologue et écrivaine ». Cet acte d'écrire romans et articles scientifiques m'a permis de dédoubler mes chances de ne plus seulement être une image pour les autres, mais de me dire moi-même, de porter ma propre voix et d'être portée par elle en retour. J'ai voulu m'entretenir avec Kaoutar Archi et lui demander de me raconter comment elle en était venue à faire des mots son métier, à habiter ainsi le langage. Je suis Charlotte Pudlowski, vous écoutez Fracas.
Quand on est une jeune femme en France, quand on est issu de l'immigration postcoloniale, quand on a grandi dans des univers où très tôt ça m'a été possible de voir quelles étaient les ressources des autres élèves, des autres étudiants, ressources que je n'avais pas forcément toujours moi-même. Le fait tout d'un coup de décider de dédier sa vie, donc ça veut dire tous les jours de sa vie presque, à une activité aussi étrange que celle d'étudier, puis ensuite d'écrire des articles scientifiques, et puis parallèlement à ça, de dédoubler ça par une écriture littéraire, par des romans. Je sais que pour beaucoup, ça peut être naturel, si on pose la question à des écrivains, des écrivaines. Dans ma trajectoire, c'est pas aussi naturel que ça, et que donc, du coup, je pour justifier cette chose peu normale, ou en tout cas... peu probable que d'être une fille avec ma trajectoire et de persister et de durer dans des espaces aussi durs et aussi violents que ceux de l'univers littéraire et de l'univers académique, scientifique. Il faut vraiment être prêt à tout le temps se reconfronter à cette nécessité de justifier le choix qu'on a fait un jour, et qui est un choix qui peut tout d'un coup tomber et s'évaporer, parce que plein de fois, je me suis dit, demain, j'arrête. Demain, c'est mon dernier jour. C'est mon dernier article. C'est mon dernier livre. Voilà, j'ai ce côté un peu, voilà, comme font parfois les rappeurs quand ils disent, allez, c'est ma dernière scène, c'est mon dernier concert, c'est mon dernier album. Moi, je sais que je me dis souvent ça avec mes livres, avec mes articles. Donc, du coup, c'est un long cheminement. Et c'est aussi parce que je crois que c'est une lutte. Parce qu'on est en plein dans quelque chose de profondément politique qui est essayer de transformer les choses avec des mots. Donc ça veut dire qu'il faut essayer de trouver des mots tout le temps qui soient des mots dotés d'un certain pouvoir. Et trouver des mots dotés d'un certain pouvoir, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce que si je prends par exemple l'exemple des romans, c'est difficile de rester propriétaire de la parole qu'on a posée sur le papier. Très vite, cette parole, elle vous est prise, elle est disséquée, elle est critiquée, et puis surtout, elle est instrumentalisée pour potentiellement vous faire porter une parole qui n'est pas du tout la parole qu'originellement vous avez portée. Pour moi, je le vis toujours comme un exercice de justification, en fait. Ça me renvoie toujours à ça. Je suis toujours renvoyée à la manière dont je réussis ou pas à justifier ce que je suis en train de faire ou ce que je suis en train de ne pas faire. Et souvent, c'est quelque chose que j'arrive vraiment à produire. C'est-à-dire que je produis des justifications très claires de tel et tel élément, de tel temps que j'ai consacré à tel article, à tel livre, au détriment de toute autre chose. Et puis parfois, ben évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Et j'ai notamment un souvenir qui est lié à la publication de mon troisième roman. C'était en 2014-2015. Et la rencontre avait commencé. C'était une rencontre en librairie. Et je sais que dans les prises de parole du public, plusieurs personnes, en fait, m'avaient posé des questions en précisant à chaque fois... chez vous, ou dans votre culture, ou dans votre pays. Et ça avait été très gênant, parce que tout d'un coup, j'étais plus celle qui parlait, mais j'étais celle sur laquelle se greffaient des paroles, des imaginaires, des fantasmes. C'est évident qu'il y a quelque chose qui se joue au niveau de la prise de parole comme forme de prise de pouvoir, en fait. Je pense que ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez important, parce que ça permet aussi de créer sa propre grammaire, de créer ses propres répertoires de représentation. Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à être des objets représentés, et à être même des objets surreprésentés, puisque avec les différents fantasmes sexualisés qui accompagnent les femmes racisées, on est vraiment face à une violence extrêmement forte. Et que tout l'enjeu, tout le débat, a fortiori dans la France contemporaine telle qu'on la connaît, c'est de parvenir à détruire ou en tout cas à remettre suffisamment en cause les normes, parce qu'en fait c'est un appareil normatif qu'on a à faire, selon laquelle à la fois la création et à la fois la production de connaissances et de savoirs seraient le fait prioritaire de personnes qui seraient faites plus que d'autres pour ce type d'activité.
Alors, est-ce que pour vous, il y aurait justement une spécificité des enjeux de pouvoir dans la prise de parole dans la langue française, du fait des enjeux coloniaux que vous évoquez, et du fait aussi qu'on survalorise la langue en France, qu'on est très très fiers de la langue française? Et ça m'a frappé, je réécoutais le discours qu'Emmanuel Macron avait prononcé au moment de la mort de Charles Aznavour, et il parlait de la langue française comme d'un sanctuaire plus sacré que tout.
La question de la langue française et de la ligne de partage qu'elle dessine, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement ancien. Et d'ancien à la fois du côté des frontières intérieures du pays, par rapport notamment à la manière dont l'État, à une certaine époque, s'est approprié la langue française et en a vraiment fait une sorte de catégorie d'intervention publique pour marginaliser progressivement les différents patois, ou en tout cas les différentes langues régionales, ou du moins les assigner à des positions... particulière, mais c'est aussi un mouvement évidemment qu'on retrouve à l'extérieur des frontières françaises, notamment du côté des territoires colonisés. Si on est un peu attentif ou si on lit les travaux qui ont pu être produits à cet égard, à la fois par des scientifiques mais aussi par des écrivains qui ont été parmi les premiers à témoigner de ce que signifiait être un Algérien colonisé, devant s'exprimer en langue française ou étant scolarisé en langue française. Je pense notamment à l'expérience, par exemple, d'un Kateb Yassine ou d'un Mouloud Feraoun. C'est vrai que la langue française a été définie très tôt comme une langue de civilisation. Et que si la civilisation est... Donc vraiment, le terme civilisation ici apprend vraiment au sens premier du terme, c'est-à-dire vraiment le processus de transformation d'un individu non civilisé en individu civilisé. La langue française et les valeurs qu'elle a supportées, le régime politique qui l'a sous-tendu, a eu une prétention impérialiste et coloniale extrêmement forte. C'est évident que ça a été dans cette langue-là que des millions de personnes ont été dominées, ont été assujetties, ont été déshumanisées. Donc, être attentif à ce processus-là, de ce qu'on a fait à la langue française, qui ensuite a légitimé qu'on fasse des choses à des hommes et à des femmes, c'est vrai que tout d'un coup, ça rend ce patrimoine de la langue extrêmement lourd, extrêmement chargé, et ça peut conférer une forme de surconscience. Il y a une forme de surconscience linguistique à s'exprimer en langue française quand on est plus ou moins rattaché à cette histoire coloniale et postcoloniale.
Et vous dites aussi, dans votre essai « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne », que vous explorez les œuvres d'écrivains que traditionnellement on dirait francophones, que vous décrivez comme algériens écrivant en français. Et vous dites qu'écrire en français pour un écrivain algérien, c'est écrire dans une langue qu'il possède, tout en étant lui-même possédé par cette langue. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une langue peut vous posséder ?
Je pense que dans le cas des écrivains algériens, on a vraiment affaire à une situation très particulière, puisque l'une des conditions de leur existence littéraire, dans un marché littéraire viable et structuré, à savoir le champ littéraire français, c'est qu'il s'exprime en langue française. Donc ça semble évident de le formuler ainsi, mais dans un pays qui est marqué par différentes langues et dans lesquelles chaque langue possède son propre niveau de langue et de perfectionnement linguistique, ça peut très vite créer pour l'écrivain en question des dilemmes, des doutes, des paradoxes qui l'invitent en fait simplement ou pas, mais à mettre en place des stratégies, des conduites qui vont favoriser la reconnaissance de l'existence littéraire qu'il essaie de bâtir. Je suis évidemment pas dans cette situation-là, puisque je ne suis pas née en Algérie, je ne suis pas née après la grande période d'arabisation, comme ont pu l'être les écrivains de mon corpus. Et en même temps, c'est pas parce que c'est pas pareil que c'est complètement différent. Disons que le point commun, il se situe vraiment dans cette tentative de dire en français ce qui, pour la société française, n'est pas toujours audible ou n'est pas toujours accepté ou acceptable. Kateb Yassine, dont je parlais auparavant, en plein exercice de promotion de son roman Nejma dans les années 60, par exemple, disait « J'écris en français pour expliquer aux Français que l'Algérie n'est pas française ». Donc on voit bien ici l'enjeu paradoxal et étonnant que ça peut faire surgir. Et le rapport à la langue, en tout cas le mien, il est pris dans cette tension-là, c'est-à-dire comment réussir à exprimer aussi clairement que possible ce qui relève classiquement du refoulé, de la dénégation, du déni. Comment faire surgir avec cette langue-là ce qui participe à organiser la violence sociale et qui perpétue un ordre masculin, un ordre bourgeois, un ordre hétérosexuel et un ordre blanc aussi, très évidemment. Donc, disons que je me situe actuellement au cœur de ces enjeux. J'ai pas énormément de réponses à apporter. C'est surtout beaucoup de questions que j'essaye de partager collectivement. Mais il me semble qu'il y a cet enjeu-là, de réussir à faire dire à une langue ce que la nation ne souhaite pas entendre et ne souhaite pas particulièrement lire.
Et la dernière chose que je voudrais vous demander, c'est en tant que sociologue et en tant qu'écrivaine, est-ce que pour vous, parler, ça comporte le même plaisir et les mêmes enjeux de pouvoir et de privilège qu'écrire ? Est-ce que la parole parlée, elle se situe à peu près au même endroit que la parole écrite.
En tout cas, pour ma part, pas du tout. Puisqu'une grande partie de mon temps est dédiée au fait d'écrire. Je sais que quand je bascule sur une parole parlée, surtout quand on me demande de parler de ce que j'ai écrit, j'ai toujours le sentiment d'être en deçà de ce que j'ai voulu voir, de ce que j'ai réussi à exprimer par l'enchaînement clair des phrases sur des pages et des pages et des pages. Mais je pense que ça veut simplement dire que l'enjeu, il n'est pas du tout, le même. Quand je parle, disons que la parole, elle est pour moi toujours dialogique. Elle est toujours en attente à l'oral de la parole de l'autre. Et c'est cette tension, cette espèce de choses suspendues à ce que l'autre va dire. Comme on dit, voilà, je suis suspendue à tes lèvres, à ce que tu vas me dire. Cette dimension-là, elle existe peu à l'écrit. À l'écrit, elle est complètement effacée, elle est complètement gommée. Les impératifs sont en tout cas très différents. Donc c'est vraiment des enjeux distincts. Et parfois, je me demande si tout ce que j'ai écrit, je ne l'ai pas d'abord écrit pour me sentir légitime après à en parler. Ça veut dire qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour réussir à prendre la parole parce que regarde tout ce que ça demande que d'écrire. Et parfois, je me dis, on pourrait prendre la parole plus simplement. Je pourrais prendre la parole plus simplement, mais je sais que j'ai toujours quelque chose qui me retient. C'est peut-être l'éthos universitaire. Voilà, tant que je ne me suis pas affrontée à un sujet à l'écrit, j'ai toujours un souci prégnant que d'en parler à l'oral. C'est important de clarifier les choses pour moi avant de les clarifier pour autrui et d'espérer qu'autour de ça, on pourra se réunir et agir. On parlait de la possibilité de l'action au départ. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut jamais perdre de vue. C'est-à-dire que pour moi, le texte, il doit vraiment... il a toujours une prétention... transformatrice. Je sors toujours d'un livre ou j'essaie toujours de sortir d'un article en me disant il faut absolument pas que je sois la même personne en ayant commencé le texte et en l'ayant fini. Et j'essaie toujours d'achever sur une note collective où à un moment donné je me dis bon, j'ai suffisamment dit je, maintenant il faut réussir à prendre le virage où le nous va devenir une évidence. La parole, il y a une dimension de jeu, il y a une dimension, c'est un jeu avec les limites, c'est qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, enfin, il y a tout cet élément-là qui entre en ligne de compte et qui évidemment est très est agréable et très jouissif aussi. Je pense que c'est pour ça que j'ai été très marquée à l'époque par ce qui se passait dans ces assemblées générales où on pouvait tout dire et tout ce qu'on disait, on y croyait d'une manière complètement absolue. On était convaincus que c'était juste et qu'on était dans la vérité à ce moment-là. Et je crois que la parole vous fait très vite croire que vous êtes dans la vérité, là où l'écriture vous empêche de vous installer trop rapidement dans ce sentiment-là de vérité. Donc c'est vraiment une étrange alchimie qui circule entre ce qui est dit, entre ce qui est écrit, entre ce qui ne fait l'objet de rien, parce qu'on n'a pas encore réussi à mettre ni de paroles, ni de mots sur beaucoup de choses. C'est que moi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'arrive à rien, ni à parler, ni à écrire, et ça existe, ça fait partie des choses sur lesquelles je travaille. Mais je suis pour la construction d'un répertoire total qui essaie d'aller chercher toutes les formes d'expression pour transformer les choses. Et je pense que c'est un travail collectif. C'est évidemment un travail collectif.
Kaoutar Archi est écrivaine et sociologue. Son dernier roman, À l'origine, notre père obscur, est publié chez Actes Sud. Son dernier essai, Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne, est publié chez Fayard. Cet épisode de Fracas a été monté par Lucille Rousseau-Garcia, réalisé et mixé par Malou Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcasts, à en parler autour de vous, à découvrir nos autres podcasts, Passage, notre nouveau podcast d'histoire vraie, le Book Club sur la littérature ou Travail en cours sur les bouleversements du monde du travail. Et si vous voulez soutenir Louis et nos projets, vous pouvez vous abonner au Club Louis, louismedia.com/club. À très vite.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.
Bonjour, je suis Marine Revol et je présente Fête des Gosses, le podcast de Louis Média qui vous aide à traverser la jungle de la parentalité. Dans Fête des Gosses, je démêle notamment le vrai du faux de l'éducation positive ou de la chasse aux écrans. Et je me demande par exemple, comment ne pas refiler nos casseroles et nos traumas à nos enfants. Vous y entendrez des sociologues, des psys, des philosophes et des parents. Et la nouveauté cette saison, c'est que je donnerai de plus en plus la parole aux enfants. Fête des Gosses est dispo partout. Bonne écoute.